Mail immédiat. Cultivons le sens de l'écoute.
Liberté d'entreprendre. Une émission présentée par Céline Amaury et Patrice Arditi.
Bonjour, un nouveau volet de Liberté d'entreprendre avec aux manettes Céline Amaury
et Patrice Arditi pour recevoir aujourd'hui Mathilde Lefrançois, cofondatrice de Farmitoo. Bonjour Mathilde.
Bonsoir Céline, bonsoir Patrice.
Bonsoir. Farmitoo, c'est une marketplace européenne d'équipements agricoles, petits et moyens équipements et directement livrés dans les exploitations.
Et avant que vous ne nous décriviez comment ça fonctionne, un petit retour 5-6 ans en arrière, vous finissez à ce moment-là votre école de commerce.
Tout à fait. Donc j'ai terminé mon école de commerce il y a 5-6 ans, mais ça passe vite. Et dans cette école, c'était un peu une agence de voyage, hein, cette école. Il faut se dire que j'ai eu beaucoup d'occasions d'habiter à l'étranger, à Manille, à Shanghai, à Buenos Aires.
Il faut d'abord la citer, cette école, quand même.
Et oui. Et ben, c'est l'école l'ESCA. C'est école des sciences commerciales d'Angers.
Mais qui vous a quand même apporté beaucoup, en dehors du fait qu'il y a eu les stages et formations dont on va parler dans un instant. Je veux dire, vous avez appris plein de trucs quand même.
Bien sûr. Moi, c'est une école qui est géniale parce que c'est une école qui est assez ancienne, elle a plus de 100 ans, donc il y a un super réseau des anciens. Il y a un cadre, un corps professoral et un cadre très, très sympa. Et puis, surtout, comme c'est une école post-bac, juste après le bac, on a l'opportunité de rentrer directement dans le concret, découvrir des matières dont on avait jamais entendu parler, et des mots qui nous paraissent un petit peu abstraits, comme la comptabilité, le marketing, le recrutement. Donc on est direct dans le bain.
Donc vous créez Farmitoo en 2018. Qu'est-ce qui vous amène à créer cette entreprise? Et qu'est-ce que vous avez fait avant, entre l'école de commerce et Farmitoo?
Oui, j'ai été piqué par l'entrepreneuriat pendant l'ESCA. J'avais un petit boulot au sushi shop. Et j'ai rencontré un fondateur de start-up au sushi shop, chez lequel j'ai fait un stage. C'était un de mes premiers stages en start-up. Et j'ai adoré le côté pluridisciplinaire de la start-up, être au cœur du réacteur directement, avoir une petite équipe aussi assez soudée, et puis pouvoir agir très rapidement. Donc,
Mais là, vous ne parlez pas encore de Farmitoo, vous parlez de Kuala, c'est ça?
Tout premiers stages, mais effectivement, c'est une des expériences qui m'a donné le goût d'entreprendre et de rejoindre ce master entrepreneuriat où j'ai créé ma première société, Kuala.
Alors Kuala, plateforme de location de matériel de sport, c'est ça, entre particuliers, mais comment pourrais-je résumer la question? Plouf.
Plouf.
Plouf. Mais quand il y a plouf, on donne un petit coup de talon et on remonte.
Et ben en tout cas, on essaye. Très belle expérience sur laquelle on apprend beaucoup de choses. Et à l'époque, je m'étais associée avec un développeur web. J'avais envie que ça avance encore plus vite. Donc, j'ai pris une formation pour apprendre à coder. Donc, les premières versions étaient faites de manière très brinque-ballante. Et puis, bien sûr, on apprend de ses erreurs pour pouvoir mieux rebondir.
Mais alors, justement, on en parlait avec Céline juste avant votre arrivée. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que c'est ça qui intéresse un entrepreneur qui voudrait se lancer. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans quoi là? Pourquoi? Pourquoi il y a eu plouf, si je puis dire?
L'association. Je pense qu'il faut savoir s'entourer des bonnes personnes avec lesquelles on est aligné en termes de vision et en termes d'objectifs. Et on n'avait pas forcément la même envie pour la suite, pour quoi là. Et la deuxième chose, c'était le modèle économique. Une commission de 10% sur des paniers moyens qui étaient très très bas. Et donc le modèle n'a pas fonctionné.
Et donc vous décidez là de changer d'univers et vous vous lancez donc dans la création de Farmitoo. Quel est l'élément déclencheur? Parce que là vous changez, hein, vous passez de la salle de sport à au monde agricole.
Il y a un dénominateur commun quand même avec Kuala qui est l'aspect marketplace. que j'avais bien aimé cette recherche d'offres et demandes et cet équilibre à trouver. Le petit plus, le déclencheur, ça a été une association qu'on a montée avec 4 personnes pendant laquelle on a fait des missions de mesures d'impact social sur le thème de l'eau et de l'agriculture. Et en fait, le mot impact et le mot agriculture ont résonné en moi. Et donc, finalement, Farmitoo, c'est l'aboutissement de la marketplace que j'adorais, l'agriculture où je sentais qu'on pouvait avoir un impact.
Mais donc en arrivant dans ce monde agricole, c'est un monde phallocratique. Comment vous, Mathilde, une toute jeune femme, hein, on peut dire vous êtes une toute jeune femme à ce moment-là, puisque c'est 2018, c'était il y a 5 ans, comment vous arrivez à vous imposer dans ce monde et vos associés sont aussi que des hommes?
Oui, le goût du challenge, bien sûr. C'est vrai que être une femme jeune et parisienne dans le secteur agricole, on n'est pas forcément attendu dans ce secteur-là.
D'autant que vous êtes une, j'ai noté, une Nima.
Exactement.
Céline, non, vous savez ce que c'est qu'une Nima?
Eh ben pas du tout.
Eh ben Nima, c'est non issu du milieu agricole.
Ah.
C'est totalement juste et c'est vrai que c'était cette envie en tout cas d'entreprendre et cette motivation d'avoir un impact sur le secteur agricole qui ont fait que ça m'a donné l'énergie à moi et mes associés de se lancer sur un secteur qu'on connaissait pas du tout pour l'instant.
Donc ça veut dire que quand on est rempli de motivation comme vous, quel que soit le domaine, on peut y arriver, homme, femme, dans un monde qui n'est pas le sien, avec de la persévérance évidemment et beaucoup de travail j'imagine. On peut y arriver.
Il y a un alignement des planètes qui se fait après, de rencontrer aussi les bonnes personnes sur sa route, et puis d'avoir un modèle qui fonctionne, une bonne équipe sur un secteur qui est important et qui est en plein développement. Mais effectivement, la persévérance et la motivation font partie des
choses. Alors j'avais une idée, un certain entrisme, et puis quand même une levée de fonds. Une première.
Exactement. Une première levée de fonds qui a lieu en 2018, où on a eu la chance d'être accompagné dès les départs par Denis Fayol, qui est le cofondateur de La Fourchette, qui a un modèle où il accompagne des entrepreneurs à se lancer. Et dans les premiers mois, c'est vraiment beaucoup plus qu'un investisseur, c'est un vrai mentor et associé pour nous.
Je vous interromps, Mathilde. Qu'est-ce que ça vous a permis de justement rencontrer Denis Fayol? Comment vous avez pu aller plus vite, j'imagine?
Oui.
Qu'est-ce qui vous a évité de faire comme erreur? Est-ce que vous le savez?
On a fait de nombreuses formations avec lui sur de l'acquisition, du recrutement, du marketing. Et donc, c'est toute cette expérience de la marketplace qui nous a amené dans un temps très, très limité, qui a fait que on s'est évité quelques erreurs du début. Et c'est un soutien important pour nous aussi. Dès qu'on a une question, on appelle Denis.
Faut quand même rappeler le nerf de la guerre. Je veux dire, c'est votre idée, c'est d'être, et d'ailleurs je crois que la formule est de vous, un darty de l'agriculture. Bon, ça veut dire faire gagner du temps à des agriculteurs et leur faire gagner, ou plutôt dépenser moins.
L'idée de base, elle était vraiment de réussir à réduire le nombre d'intermédiaires sur le secteur agricole qui est assez important et d'apporter une offre qui soit une offre grosse pour une grosse offre de matériel, de produits pour les agriculteurs, avec derrière un service de qualité, le tout en ligne. Et donc on a joué beaucoup sur la dimension offre, sur la dimension prix très compétitif, et puis l'aspect international aussi, parce qu'on a commencé dès les débuts de Farmitoo à vendre.
Mais ça c'est curieux.
En Allemagne.
Ça c'est quand même curieux. On en parlait également en préparant l'émission avec Céline. Le fait de ne pas faire comme les autres généralement quand on essaye, quand on lance une start-up, on va d'abord essayer d'être chez soi, donc de rester en France pour éviter les écueils. Et vous, eh ben non, vous vous êtes dit, allez hop, tout marchera en même temps. C'est ça.
Bien sûr, on peut se brûler un petit peu les ailes, mais l'envie qu'on avait, c'était de se dire qu'on allait apporter une offre sur le marché français et aux agriculteurs auxquels ils n'avaient pas forcément encore accès. Et donc, ça représentait bien sûr un certain tous les fournisseurs et les fabricants en France de matériel agricole, mais aussi ceux qui étaient positionnés en Allemagne et en Italie, pour pouvoir apporter le petit plus aux agriculteurs, et aussi pouvoir par moments jouer sur les prix grâce à cette offre qui provenait de l'international.
Vous parlez d'opacité.
Oui, c'était beaucoup le cas quand on a lancé Fermitou il y a 6 ans. Des distributeurs de matériel très locaux, donc concessions agricoles, distributeurs de matériel agricole, qui montraient pas forcément leur prix, toujours leur prix, ou alors c'était des prix qui se négociaient totalement à leur clientèle.
Ils doivent vous en vouloir, tous ces gens, non, aujourd'hui ?
C'est une évolution pour moi assez naturelle du marché où on sait qu'on remplacera jamais les concessions agricoles ou les distributeurs. En revanche, on veut que l'agriculteur puisse comparer sur Internet avant d'acheter chez son concessionnaire et se pose la question, est-ce que là j'achète ma pièce détachée au bon prix ou alors est-ce qu'elle est trop chère et mon concessionnaire est en train de faire un plus 300% sur le coût du matériel.
Si je m'abuse, vous offrez quand même des équipements au moins 15% moins chers.
Ah oui.
Que le marché.
Bon,
c'est
moins,
quand même,
en moyenne.
C'est quand même directement intéressant. Et justement, votre entrée dans l'international, ça signifie que vous offrez un certain nombre de marques aux agriculteurs qu'ils n'auraient jamais pu soupçonner auparavant.
Vous avez tout compris, Patrice.
Mais c'est très bien. Mais non, mais, vous savez pourquoi je vous dis ça? Je suis très jaloux, moi, de ce genre de choses. J'ai jamais pu entreprendre dans ma vie qu'il y ait quelque chose comme ça. Et je trouve ça extrêmement courageux. Et quand ça marche, bah, je suis très content pour la personne qui évidemment, est assurée de la victoire. Et franchement, ce contexte-là d'une personne qui ne connaît rien en agriculture, qui, entre parenthèses, aurait pu être commissaire-priseur, ce qui n'a rien à voir, puisque vous avez travaillé dans, je crois que c'était à Londres, c'était une maison...
Chez Christie's.
Chez Christie's, carrément, chez Christie's. Et là, vous allez me dire si j'ai raison, là vous vous êtes dit, bon, le milieu, il n'est pas tout à fait honnête, ou pas suffisamment à mon goût. Et quand vous avez rencontré les agriculteurs, et j'étais très surpris, vous avez découvert des gens, ce sont vos propres mots, francs.
Il y a une vraie honnêteté, une vraie... Enfin, il y a un attachement au secteur agricole. C'est des personnes qui sont honnêtes, où on sent qu'il peut y avoir un petit peu de méfiance au départ pour un site en ligne. Est-ce que je paye sur le site? Est-ce que je vais vraiment être livrée de mon produit? Et puis une méfiance pour ceux qui savent qu'on n'est pas du secteur. Est-ce que je vais être bien accompagnée et bien conseillée? Une fois qu'on arrive à leur montrer qu'on a un service de qualité, qu'on est là pour les accompagner, qu'on est à leur service, on arrive à avoir une relation qui est très... fluide et simple et honnête.
Et qui perdure.
Tout à fait.
Alors moi, je parlerais bien un petit peu des produits. Vous commercialisez 1500 marques, 150 000 produits. Alors, vous ne commercialisez pas des tracteurs encore?
On a du matériel de la machine tractée. Donc, ça va être des petites charrues ou des petites herses. Ça commence à être des bons morceaux, mais effectivement, on n'a pas de tracteur.
Donc, c'est beaucoup de matériel, de pièces détachées. Est-ce que, en termes de SAV, par exemple, garantie, comment ça fonctionne?
Ça fonctionne en direct avec le fabricant. Donc, Fermitoo est toujours un intermédiaire de confiance. Le client va se tourner vers nous, et nous, on va voir avec le fabricant. Le plus souvent, le client retourne sa pièce, elle est réparée, on lui en renvoie une nouvelle. Donc tout ça est fait à distance, mais avec un accompagnement de proximité.
C'est encore l'effet Darty qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez fait une espèce de SAV assez extraordinaire où vous proposez aux agriculteurs des experts pour régler leurs problèmes, quels qu'ils soient.
Et en fait, la complexité de base du modèle, c'était de réussir à reconnecter un fabricant de matériel agricole avec son client final dont il avait totalement perdu le lien parce que deux ou trois intermédiaires. Et là, nous, on n'est pas en direct, parce qu'on reste l'intermédiaire, mais en tout cas, avec le digital, on arrive à donner le plus d'informations possibles sur la satisfaction du client, sur ses retours produits, pour que derrière, le fabricant puisse aussi apprendre de ses clients finaux sur les produits qu'il commercialise.
Est-ce que vous commercialisez des produits d'occasion?
Alors, on a une gamme d'occasions sur les pièces détachées. Il y a un très très gros marché d'occasions sur ces pièces-là qui est pas encore digitalisé. Patrice, en idée de start-up, il y a de quoi faire. On a un petit peu freiné, c'est toujours dans un coin de notre tête, mais aujourd'hui on est surtout concentré sur le du neuf.
J'évoquais tout à l'heure une première levée de fonds.
Ah ben j'allais y venir.
D'un million, il y en a une beaucoup plus conséquente ensuite, mais quand même, il faudrait parler de quelque chose qui vous aura probablement beaucoup aidé, et je voudrais savoir en quoi ça a pu vous aider, c'est ce fameux concours.
Lequel ?
En 2021 ?
Oui.
Oui, tout à fait. C'est le prix IVI, qui est un concours de jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans, sur lequel cet organisme fait une présélection de 3 candidats qui ont moins de 30 ans, qui ont levé plus de X millions d'euros, et nous invite à pitcher devant des chefs d'entreprise ou autres professionnels de beaucoup de renommée. Et effectivement, j'ai été contactée pour ce concours pour lequel j'ai été lauréate.
Voilà. Vous êtes meilleure jeune dirigeante de la tech 2021.
Ah, c'est un grand honneur.
C'est absolument énorme, surtout que c'était un jury de 20 dirigeants de grands groupes tech. Alors moi, ce qui m'a particulièrement plu, mais j'essaye de voir le rapport, c'est que ce jury a souligné, entre autres, votre humanité. Mais pourquoi ?
Faudra leur demander. Non, je pense que c'est l'aspect impact, le fait d'être animé par la mission de Farm It Too et vraiment l'envie de faire un service pour les agriculteurs et de, à notre échelle, pouvoir les accompagner et les aider qu'ils ont dû souligner. Mmh. Et c'est vrai que cette partie-là sur à la fois les clients, mais à la fois l'équipe aussi, parce que on a une équipe Farm It Too qui est assez soudée et dans laquelle on fait le maximum pour que les gens se sentent bien dans l'entreprise.
À propos de l'équipe, 75-80 personnes ?
Alors, malheureusement, on a connu une phase un petit peu de tempête, comme dans toutes les entreprises, peut-être actuellement. Non, start-up,
turnover,
marketplace, pour laquelle on a dû se séparer d'une partie de l'équipe, avec un nouvel objectif aujourd'hui chez Farm It Too, d'aller vers la rentabilité. Comme le secteur de la tech est en pleine transition et en plein changement, on sait que on doit pour aller de l'avant aller vers une société qui est plus rentable.
Oui, c'est une de mes questions qui est arrivée. Effectivement, les startups depuis quelques années se montent, disparaissent, etc., en oubliant la rentabilité. Mmh. Les startups fonctionnent sur des levées de fonds. Mais effectivement, on a l'impression qu'une entreprise ne vit que de ça aujourd'hui. Mmh. Et les entrepreneurs oublient très souvent la rentabilité. Et c'est vrai que ça mène à la catastrophe, malheureusement. Alors, ça change un petit peu, puisque la bulle des startups et des fonds à foison se réduit. C'est vrai qu'on parle un peu plus de rentabilité. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez dû faire une levée de fonds en 2023, là, qui est toute récente, de 2,5 millions? C'est pour faire un bridge vers une série C ou quelle est la raison?
C'est un bridge entre une série A de 2021 et peut-être une future levée de fonds. Donc c'est un bridge avec vraiment cette envie de se montrer très adaptable et très flexible au contexte actuel, où on freine un petit peu sur la très grosse croissance et le schéma de recrutement massif de l'entreprise, en allant vers un système beaucoup plus sain d'entreprise et avoir perdurer, arriver à rentabilité et devenir presque indépendant.
Alors même s'il y a eu une petite baisse de tension,
oui,
donc qui s'est également vue dans l'équipe, cette équipe, elle est internationale. Vous appelez ça d'ailleurs une auberge espagnole. Et c'est nécessaire.
Et c'est nécessaire pour le fonctionnement avec aujourd'hui nos fournisseurs et nos clients. Donc effectivement, on est un tiers, presque la moitié d'allemand, et le reste de français, et on est tous dans nos bureaux à parler un mix d'anglais et français. Je dois avouer que je parle pas allemand. Mmh. Et donc, il y a une atmosphère qui est assez sympathique.
Oui, c'est une particularité, ça, effectivement, de faire MeToo, cette plurinationalité. Mmh. Comment vous faites pour recruter? Parce que moi, j'ai entendu sur d'autres interviews que vous avez pu donner, vous recrutez carrément des collaborateurs qui arrivent d'Allemagne ou des Pays-Bas ou d'Italie. Comment vous faites pour les séduire suffisamment pour qu'ils viennent s'installer en France?
Oui. Il y a une part de valeur, je pense, qui ressort beaucoup de chez Farmitoo, une équipe qui s'entend bien, qui se sent bien, qui est assez proche des unes des autres. Une part de mission qu'on va leur proposer, ou la mission va leur parler parce qu'ils vont avoir plus de responsabilités et qu'ils vont beaucoup apprendre en interne. Et puis un secteur qui parle aussi, avec cette envie de contribuer aussi à son échelle sur différentes problématiques actuelles et enjeux sociétaux qu'il peut y avoir. Donc c'est trois points qui peuvent parler aujourd'hui à des candidats. Et puis être plongé dans une start-up française, le fait d'être à Paris... colle pas beaucoup avec le secteur, mais nous aide bien sûr à recruter plus d'Allemands ici.
Comment fait-on pour lever des fonds, c'est-à-dire pour prouver qu'on va forcément attirer l'intérêt de la clientèle, donc de comment vous appelez ça, de créer une traction? Oui. Comment fait-on?
Des chiffres. Le tout début des levées de fonds, les premières levées de fonds, c'est des levées qui sont vraiment basées sur une idée et une équipe derrière.
Enfin, on n'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est facile. C'est facile. Totalement. On peut même arriver avec un papier, un stylo et expliquer aux banquiers. Enfin, c'était comme ça il y a certaines années. En France, c'est l'opération parapluie pour obtenir des fonds.
Et puis au bout d'un moment, c'est quelle traction on a réussi à avoir dans les premières années, quelle rétention de nos clients on a réussi à avoir, comment on fait pour augmenter le volume d'affaires, le panier moyen, tout un ensemble d'indicateurs qui sont regardés au panier fin par des investisseurs, et puis notre capacité ensuite d'aller plus loin, soit sur d'autres marchés, soit étendre notre part de marché en France et à l'étranger.
J'aimerais revenir sur cette question de l'acquisition client, justement. Il y a 390 000 exploitations agricoles en France. Comment, je ne sais pas combien vous en avez aujourd'hui, mais comment vous arrivez à les toucher, les contacter pour qu'ils viennent chez vous? Parce qu'ils ont des habitudes aussi, les agriculteurs.
Oui, il y a un très gros enjeu, nous, sur tout ce qui est l'acquisition en ligne. On pense souvent, à défaut, que l'agriculteur n'est pas connecté ou qu'il ne va pas sur Internet. Et c'est faux, les agriculteurs sont très, très connectés et passent beaucoup de temps sur leur smartphone à regarder les actualités, la météo, les petites annonces, les produits. Et donc, notre premier réflexe d'acquisition était d'être très présent sur les gammes de produits qu'on vendait pour cibler des clients intentionnistes d'achat qui savent déjà un petit peu ce qu'ils veulent ou arriver un peu en amont de leurs besoins pour pouvoir les renseigner. Et donc là, il y en a beaucoup qu'on arrive à capter par Internet finalement. Et puis après, divers outils pour cibler d'autres bases emailing d'agriculteurs, être un petit peu présent à des salons agricoles et des foires agricoles. Et puis après, ça marche beaucoup au bouche à oreille aussi. On voit des choses assez marrantes dans les ventes. Un petit village où une personne achète un produit et puis quelques semaines ou mois plus tard, le même produit qui est acheté dans ce même village. Donc on arrive à voir des choses assez amusantes.
Justement, je voulais en arriver là. Vous avez combien de clients? Entre 30 et 40 000 à peu près?
Non, plutôt 100 000 clients.
100 000 là?
Oui. Mais répartis entre nos différents
Bien, bien sûr. Alors, sachant que en moyenne, un agriculteur va dépenser en équipement de ce genre 10 000 euros, c'est bien ça? Votre panier moyen, c'est quoi chez Farmitoo?
On est aux alentours de 300 euros.
Donc, j'ai fait un calcul.
Hors taxe, donc vous faites
100 000 multiplié par... Non.
vous pourriez faire le calcul en vous disant qu'il y a environ 400 000 exploitations agricoles qui dépensent 10 000 euros. Donc, on a un marché en France de 4 milliards.
7 à l'international. Enfin, c'est 7 en Europe. Ouais. 7 en Europe, mais c'est vraiment... 4.
3 ou 4 milliards. Ah. Après, ça dépend de la typologie de produits. Est-ce qu'on compte les machines agricoles dedans ou pas? Effectivement, avec les machines, on arrive peut-être plus à 4. Mais en tout cas, c'est un très gros marché en France et en Europe. Un marché qui est stable parce qu'on a toujours besoin de l'agriculture. Mais un marché où... On sait que le nombre d'exploitations agricoles et le nombre d'agriculteurs aujourd'hui est plutôt en déclin. Donc comment est-ce qu'on peut aussi, nous, accompagner à notre manière des agriculteurs de plus petites exploitations pour qu'ils perdurent dans leur activité?
Pourquoi de plus petites?
Ah
oui, ouais. Mais il y a quelques années, il y avait plus d'un million d'agriculteurs. Il y en a maintenant...
390 000.
Pas tout à fait 400, mais les exploitations sont beaucoup plus importantes.
Exactement. Effectivement, il y a exploitations qui sont plus importantes. Et comment faire pour que un agriculteur avec une petite exploitation continue son activité et ne soit pas obligé de céder son activité à des plus grosses exploitations.
Est-ce que vous leur permettez des conditions de règlement un peu particulières quand il y a besoin d'un équipement un peu plus important, par exemple?
Tout à fait. On a du tous les classiques de paiement PayPal, carte, virement bancaire, paiement en 3 fois, paiement en 10 fois, ou paiement à 30 jours. On travaille aussi en lien avec des banques comme le Crédit Agricole qui propose des prêts. Donc, il y a le prêt Agilor qui existe pour des achats un petit peu plus conséquents. Et donc là, le prêt Agilor permet aux agriculteurs de débloquer des fonds pour qu'ils fassent leur achat en ligne. Donc, c'est aujourd'hui un peu ce qu'on fait en interne, oui.
100 000 clients, c'est énorme. Panier moyen, vous nous l'avez donné. Combien de commandes par jour? 100, 150?
Je pourrais vous dire qu'on a environ entre 3500 et 4500, 4000 commandes mensuelles.
Ah, mensuelles, d'accord.
Oui, j'avais lu 200 commandes par jour.
200 commandes par jour?
Oui.
D'accord. C'est suffisant selon vous ou...
C'est jamais suffisant.
Bon, mais je crois que vous vouliez vraiment atteindre un certain niveau fin 2023.
Ouais.
C'est pour ça que je vous demande si c'est suffisant.
Oui. On est content de la manière dont ça se déroule. Et on pense qu'on peut aller encore plus loin. On n'est jamais satisfait quand on est entrepreneur.
Alors, pour aller plus loin, justement, est-ce que demain, vous ouvririez votre catalogue, par exemple, à tout ce qui est graines?
Alors, c'est effectivement quelque chose qu'on est en train de travailler, la partie semences. On a commencé cet été. Alors, la manière dont on fonctionne aussi beaucoup, c'est qu'on est une équipe assez active, réactive, et on a tendance aussi à pouvoir tester des nouveaux projets, des nouvelles activités assez rapidement, et de se dire, est-ce que ça vaut le coup qu'on aille un petit peu plus loin dans le test? Est-ce que nos clients réagissent positivement à une offre de semences qu'on va faire? Est-ce qu'on investit en temps humain plus de temps pour le développement de cette gamme de produits? Et donc, effectivement, on a lancé une première gamme des semences sur lesquelles on voit les premiers résultats. Voir pour la suite des nouvelles campagnes agricoles qui vont arriver dans
les
prochains mois.
Et les engrais là-dedans?
Et les engrais, pour l'instant, on n'a pas d'offre d'engrais, mais c'est quelque chose qu'on regarde aussi.
L'agriculteur, c'est assez vaste. Quels sont vos principaux clients? Les maraîchers, les céréaliers, on parle à l'instant,
oui.
les viticulteurs
Oui. Les céréaliers, les éleveurs et les polyculteurs, donc qui ont une part de céréales, une part d'élevage. Donc ça, c'est vraiment la majeure partie des clients Farm Me Too. Et puis après, on a d'autres typologies de clients, des maraîchers, des viticulteurs. On a aussi des garagistes et des concessions agricoles qui achètent à Farm Me Too. Et puis des communes, des jardins, parcs.
Qu'est-ce que vous referiez autrement si c'était à refaire ?
C'est une question toujours compliquée. Je pense que on a, après la seconde levée de fonds, recruté un peu rapidement. Donc on est arrivé à un nombre de personnes qui était à presque 100 personnes. Donc forcément, ça change la dynamique d'équipe, ça change, ça complexifie les process, ça atténue un petit peu la communication aussi inter-équipe. Et nous, on a vu ce changement aussi très fortement. Ça a été une grosse augmentation d'équipe très rapide.
En combien de temps et combien de collaborateurs en gros ?
Plus 70 collaborateurs en l'espace de 3 mois.
Ah oui, c'est beaucoup.
Donc c'est vraiment beaucoup. Et je pense qu'on n'était pas tout à fait prêts en interne à être aussi nombreux. Donc aujourd'hui, je dirais que je prendrais plus le temps de chaque recrutement, de voir comment ça se passe avant d'aller plus loin.
En conclusion, question traditionnelle, votre pari sur l'avenir, qu'est-ce que c'est ?
C'est un pari où Farm Me Too continue d'apporter un service de qualité à une plus grosse partie d'agriculteurs européens et qu'on devienne leur site et leur moyen d'achat de référence pour tout leur matériel.
Ah mais moi je croyais que vous alliez me parler de la ferme du futur.
C'est toujours en tête, vous voyez, on a plein de choses. Hein.
Merci en tout cas.
On se reverra pour en parler. Merci Mathilde.
Merci beaucoup.